Jour de la question à Fès.
Qu'est-ce que c'est?
Pourquoi c'est comme ça?
Comment fait-on?
Qu'est-ce que ça va changer?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, depuis la ville de Fès, au Maroc, où nous avons installé notre studio improvisé dans les jardins du musée Bata, à l'ombre des jacarandas en fleurs, à l'ombre mauve des jacarandas en fleurs, pour nous interroger sur les liens tissés depuis toujours et aujourd'hui à revivifier entre toutes les Afriques, du nord et du sud du Sahara. Fès au miroir de l'Afrique, c'est le thème choisi cette année pour la 21e édition du Festival des musiques sacrées et pour les rencontres du forum qui se déroulent en ce moment même, vous les entendez peut-être, de l'autre côté du jardin du Palais Bata, dans l'esprit de Fès. Fès la Marocaine, capitale spirituelle du royaume chérifien. Fès l'Andalouse, Fès l'Africaine. Pourquoi et comment ces multiples influences prennent un sens particulier aujourd'hui? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l'historienne Jocelyne Daclia et l'ethnologue Romain Simnel. Autour de la question « Pourquoi Fès l'Africaine ?» Bienvenue ici à Fès. Bonjour Souleymane Bachir Diagne.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous retrouver à Fès, même si au fond c'est assez logique que le philosophe que vous êtes, spécialiste de logique, hein, rappelons-le, né à Saint-Louis du Sénégal, aujourd'hui professeur de philosophie à l'Université de Columbia à New York, auteur entre autres de « Comment philosopher en islam », soit investi dans cette réflexion croisée sur les racines et les ailes africaines de Fès. Car l'histoire intellectuelle, spirituelle, philosophique de ce continent est partagée bien plus qu'on ne le pense des deux côtés du Sahara. C'est important de le rappeler, Souleymane, et d'y revenir aujourd'hui.
Absolument, parce que ce qui est en jeu, c'est simplement l'histoire intellectuelle et spirituelle de ce continent. On ne comprend pas l'histoire intellectuelle du continent africain si on ne comprend pas justement que le Sahara n'a jamais été un mur, que ça a toujours été un espace parcouru dans tous les sens, du nord au sud et du sud au nord, par des biens, des personnes, des idées, des livres, du papier, toutes sortes de choses, et en particulier des influences spirituelles et intellectuelles qui se sont exercées dans les deux sens.
Bonjour, je suis Daclia.
Bonjour.
Alors vous êtes historienne, franco-tunisienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteure entre autres d'une histoire des musulmans d'Europe. Vos travaux portent sur les représentations de l'islam en Europe et sur la question des migrations. Alors c'est une longue histoire justement, celle des migrations, Souleymane le rappelait, des circulations et des échanges sur tout le continent.
Tout à fait. Donc, nous sommes en train de redécouvrir, en tant qu'historien, l'importance d'une présence des musulmans en Europe. Mais il est important de rappeler aussi la fluidité des circulations dans l'autre sens, et bien avant les périodes coloniales. Et pour prendre un exemple qui ne renvoie pas cette fois au soufisme ou à la mystique et aux circulations religieuses, je voudrais rappeler que la conquête du Soudan sous le sultan saadien El-Mansour s'est faite en grande partie par des Andalous, par des gens venus d'Espagne, parfois dans les liens d'esclavage, et convertis à l'islam pour la plupart d'entre eux.
Donc histoire complexe, hein, une histoire tissée, mélangée.
Très complexe, où la violence se mêle avec le partage finalement.
De quoi nous faire réfléchir aujourd'hui, hein, quand la violence se mêle avec le partage. Bonjour Romain Simnel.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, chercheur à l'IRD, vous avez longtemps vécu et beaucoup travaillé dans le sud marocain auprès des Berbères. Vous vous intéressez aussi de très près à la circulation des manuscrits du Sahara. Vous avez notamment publié ici au Maroc « Ne mange pas ce livre, Mali, Mauritanie, Maroc, les enjeux des manuscrits au Sahara ». Ce sont des enjeux très contemporains, mais qui eux aussi ont une très très longue histoire.
Oui, une longue histoire, et en fait c'est l'histoire de la filiation des idées et des connaissances depuis l'Andalousie jusqu'au Sahel. Et donc voilà, donc c'est vrai que on a eu tendance à imaginer que cette filiation, cette production écrite se serait arrêtée, ou en tout cas il y aurait une rupture avec la Reconquista. Et finalement, non. Il y a cette filiation qui a perduré, notamment dans les espaces marginaux, dans les déserts, dans les campagnes, où de petites zaouias, enfin des religieux, ont pris le relais des grandes cités pour continuer justement cette formidable filiation des idées.
Aujourd'hui encore, hein, autour aujourd'hui de la question encore. Pourquoi Fès est aussi africaine, je vous propose quelques pistes de réflexion au miroir de l'Afrique, depuis le musée de Bata à Fès, en compagnie des oiseaux, avec le mix de Guillaume Ploquin, inspiré comme nous tous par l'esprit de Fès.
Merci beaucoup de votre présence ici à cette première journée du Forum, précisément sous le signe de Fès, au miroir de l'Afrique.
Le lien entre l'Afrique et le Maroc permet précisément de montrer ce qu'il y a d'africain dans le Maroc. Pas simplement à travers l'islam, à travers plein d'autres choses.
Chers festivaliers, Fès se muera pendant les 9 jours à venir en une exceptionnelle scène qui accueillera plus de 50 concerts animés par des artistes venant d'Afrique, mais aussi des 4 continents, dans un esprit d'ouverture, de tolérance et de partage.
Je pense qu'il y a un énorme progrès dans l'idée qu'il ne faut pas dissocier l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne.
Le manuscrit est un tissu de relations humaines. C'est un objet transitionnel, de transition entre les personnes.
Vous savez, toutes sortes de sujets, de la grammaire à la théologie, en passant par les droits, par la littérature et même des textes scientifiques.
Est-ce que le Sahara est un espace qui rassemble les populations qui en habitent le tour ou qui les sépare, même s'il existe à travers des voies de circulation?
Le rapport qu'il y a entre le Sénégal et le Maroc, ça date de très longtemps.
Bienvenue à Fès et à son festival.
Bienvenue à Fès, où nous sommes. On s'y sent bien à Fès, Souleymane Bachir Diagne?
On s'y sent merveilleusement bien. En plus, le soleil, le temps s'est mis de la partie pour nous.
On a failli avoir de la pluie hein, quand même.
On a failli avoir de la pluie, mais là, nous sommes sous un soleil absolument radieux.
Jocelyne Daclia, on s'y sent bien à Fès?
Oui, on s'y sent très bien. Fès est une grande cité aristocratique qui peut donner une impression de fermeture quand on ne la connaît pas bien. Mais dans une période comme celle-ci, qui est une période du festival, elle retrouve toute son ouverture et puis toute sa dimension internationale, cosmopolite, qui nous ramène finalement à la grande cité médiévale.
À cet esprit de Fès, Romain Simnel, alors vous connaissez bien le Maroc, mais on s'y sent bien à Fès. On sent quand même aussi une forme de dynamisme.
Oui, un grand dynamisme. Mais il faut savoir que dans cette médina qui est juste à côté, il y a une diversité aussi de savoirs extraordinaires, d'artisans. Là, on ne les entend pas, les petits marteaux qui frappent sur les plateaux à thé ou sur les tailleurs. Mais il y a une diversité aussi de
techniques. On ne sent pas l'odeur des tanneries non plus.
Non, non plus. Mais elles sont là, voilà, exactement.
Alors, je ne sais pas si tous les chemins mènent à Fès, mais vous étiez tous les trois, Jocelyne, Romain et Bachir, réunis samedi autour d'une table ronde. Hein, on entend la table ronde en ce moment qui est en train de se dérouler dans ce forum à Fès, une table ronde sur tous les chemins, donc spirituels, chemins commerciaux. Ils se sont tracés ici. Est-ce qu'on peut dire que Fès est un peu au cœur de tous ces chemins qui ont traversé l'Afrique et le Sahara, qui n'est pas une frontière mais un espace commun? Fès en serait le cœur?
Je le crois. Écoutez, je me suis permis d'ailleurs lors de la table ronde d'évoquer une histoire familiale plus personnelle. J'avais parlé de mon arrière-grand-père qui venait à Fès acheter des livres. D'abord, c'était un des responsables, un mokadam, comme on appelle cela, de la Tidjania. Donc, il venait à Fès parce que pour lui, c'était aussi la capitale spirituelle où se trouvait le tombeau de Sidi Ahmed al-Tidjani.
Le fondateur, hein,
fondateur de la Tidjania, qui est véritablement chez elle. Au Sénégal, et il venait acheter des livres qu'il revendait dans la Sénégambie en compagnie de ses disciples. Donc sur cette histoire personnelle, si vous voulez, si je l'extrapole, elle montre bien la signification que Fès a eue sur le plan et intellectuel et spirituel pour toute cette région de l'Afrique occidentale musulmane qu'on appelait le Soudan. C'est-à-dire, c'était un raccourci pour Bilad Soudan, le pays ou la terre des Noirs.
Le pays, la terre des Noirs. Donc le Sahara, vous l'avez dit, Souleymane, c'est une frontière, c'est un espace commun partagé, et c'est un espace commun emprunté par les manuscrits et par tous ceux, comme le grand-père de Souleymane, qui ont transmis ces manuscrits romains.
Oui, parce qu'en fait, Fès est aussi une étape. Finalement, on est dans un corridor entre l'Andalousie et le Sahel. Il y en a d'autres, plus à l'est, qui ont abrité aussi ce genre de passage.
Des corridors.
Oui, des corridors. C'est des véritables passages, transferts de techniques, de savoirs. Il faut savoir que, par exemple, Fès est une des villes qui a accepté et transformé la culture du thé qui venait d'Angleterre. C'est pour ça qu'on a les dinandiers de Fès qui ont repris toute la tradition anglaise du thé. Et c'est de là qu'en fait, la culture du thé s'est ensuite émancipée en Afrique. Donc,
Ce qui est étonnant, Jocelyne Daclia, c'est qu'on a l'impression que dans l'histoire, les chemins, ils allaient dans les deux sens et dans tous les sens. Alors qu'aujourd'hui, on se demande...
Tout à fait. Il y a une fluidité dans les deux sens dont nous avons perdu la notion aujourd'hui. Alors, l'africanité de Marrakech, par exemple, elle est assez évidente, étant donné sa proximité avec l'Afrique subsaharienne. L'africanité de Fès, il faut un peu plus l'expliquer et se représenter que dans une ville qui est par moments une ville capitale, capitale politique, mais aussi une grande ville aristocratique, comme je l'ai dit, une grande ville aussi de commerce. Il y a une intensité des relations avec l'Afrique subsaharienne qui passe par le commerce, mais je l'ai évoqué aussi rapidement, il me semble, qui passe par la question de l'esclavage.
Qui passe par la question de l'esclavage, question qui fâche évidemment, mais qui fait partie de la mémoire ici.
Qui
aussi.
Fait partie de la mémoire, mais qui fait partie du tissu social également et du tissu même de la vie et de l'histoire, puisque donc d'une part il y avait tous ces négociants qui se rendaient régulièrement au Sénégal, au Mali et qui en ramenaient des femmes, et puis il y avait aussi ce commerce haïssable de l'homme et de la femme, donc cette vente d'esclaves, mais qui a des conséquences tout à fait essentielles dans l'histoire marocaine, puisque notamment depuis le Moyen-Âge un certain nombre de sultans sont issus de concubines africaines.
C'est-à-dire que ça a joué dans tous les sens. C'est une histoire haïssable, mais c'est une histoire qui a aussi donné un rôle, un pouvoir à certains Africains.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une histoire qui joue à tous les niveaux de l'échelle sociale, depuis la petite domestique exploitée dans l'intérieur d'un grand palais de Fès, jusqu'au sommet donc de la hiérarchie sociale, puisque des mères de sultans sont africaines, mais aussi de grands personnages, de grands notables ont une mère et une famille maternelle africaine. Et ça, c'est évidemment une donnée fondamentale.
Autour de la question, pourquoi Fès est aussi africaine dans toute sa complexité ? Réponse ici même, au Musée Bata, au Festival des Musiques Sacrées de Fès, avec Fada Freddy, ou l'art du gospel, revu par le rappeur sénégalais. Ce sera samedi 30 mai, et c'est tout de suite sur RFI, Letter to the World, Fada Freddy.
I wrote a letter, I wrote a letter, I wrote a, I wrote a, I wrote a, I wrote a, I wrote a letter to the Lord, begging him to send the chords that would make you stay by my side. He sent an A minor groove, just as you like it, something smooth that doesn't hurt at all. Here comes a major in all its glory. Says I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a long song, make it yours. They call the pieces. There's nothing wrong. It's no poetry, no symphony, but these are my words. You saw my lines, you seized my prayer. Cause every inch of my skin still holds the perfume of my sin. I try to take it off so many times. I know this is my very last chance. No mercy, no kindness, no defense. I hope it comes naturally. It's glory. Forgive the failure, says I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. Pick all the pieces. There's nothing wrong. It's no poetry, no symphony,
Letter to the World, Fad Afridi sur RFI à Fès, où le rappeur sénégalais se produira ici même, là où nous sommes, au musée Bata, le 30 mai prochain, dans le cadre de ce festival des musiques sacrées, au miroir de l'Afrique, de toutes les Afriques et de tous les Africains qui circulent sur le continent et au-delà depuis toujours, en passant par Fès. Alors Fès, lieu de tous les échanges, Romain Simiel, peut-être pourrait-on resituer géographiquement cette ville?
Oui, parce que Fès, en fait, se trouve dans une région un peu particulière. Nous avons le Rif, donc juste au-dessus, qui est une région montagneuse berbère, et nous avons en fait des sites très importants juste à côté, notamment le site de Volubilis, donc
site romain,
qui est un site romaine. Oui, qui est le plus important site en ruine donc romaine. Et puis surtout, nous avons Moulay Idriss Zeran, donc c'est-à-dire en fait la tombe du premier roi du Maroc. Il faut savoir que Fès était la première capitale, la première cité royale donc du Maroc, et que c'est donc cette région qui a abrité et accueilli donc le premier souverain marocain, qui lui en fait était un exilé, il venait de l'Est, et donc c'est cette région qui a accueilli cet exilé et pour en faire un sultan.
C'est assez symbolique ça, puisque aujourd'hui nous sommes à Fès pour célébrer cet esprit de Fès, lieu d'échange, lieu de passage, aujourd'hui quand même beaucoup plus difficile et compliqué qu'autrefois. En même temps, Fès est toujours, toujours un lieu d'échange, un lieu de passage. On voit des migrants venus d'Afrique qui passent ici, qui mendient aussi. Il y a d'autres circulations aujourd'hui, Jocelyne Daclia.
Oui, tout à fait. C'est une réalité qui, il faut le rappeler, concerne l'ensemble du nord de l'Afrique à l'heure actuelle, concerne aussi au même degré la Tunisie, l'Algérie, l'ensemble du Maroc, sans oublier la Libye.
D'être traversé par des migrants.
Mais justement, il y a une prise de conscience relativement récente qu'il ne s'agit plus simplement de transition. C'est-à-dire que pendant de longues années, on a pensé que ces migrants subsahariens traversaient simplement le nord de l'Afrique en partance pour l'Europe, et on comprend maintenant qu'ils n'ont plus vocation à partir, mais qu'ils sont appelés à rester de manière beaucoup plus pérenne, et donc il faut leur faire une place dans la cité, y compris dans une cité comme Fès, qui n'est pas directement sur la Méditerranée.
Est-ce que ça change justement, est-ce que le regard des habitants de Fès, de Tunis, d'autres pays de cette Afrique du Nord traversée, est-ce que le regard change justement par rapport à ces migrants?
En tout cas, c'est un regard nouveau, avec un débat qui actuellement fait rage, je dirais, dans le débat public. Enfin, c'est une question qui fait rage dans le débat public, la question donc du racisme et de la place que l'on peut réserver à ces migrants subsahariens.
Cette histoire complexe, hein,
dans
on a commencé
histoire,
à
voilà,
dire.
Déjà
cette histoire
complexe,
déjà complexe au voilà. Départ, où il y a toujours eu des échanges, mais toujours des ambiguïtés.
Tout à fait, mais ça réveille des questions qui justement n'avaient pas été débattues de manière suffisante ou suffisamment au grand jour, comme la question de l'esclavage, et ça crée également une tension autour de la question du noir. Autour de la question aussi de citoyens marocains, citoyens algériens, tunisiens, qui sont noirs et qui, eux, appartiennent à une histoire beaucoup plus ancienne.
Souleymane Bachir Diagne, oui. Justement, là on se rend bien compte de l'importance de revenir sur cette histoire avec toutes ses ambiguïtés, sur l'histoire de l'esclavage, sur la question et la place du noir ici dans ces sociétés, dans cette Afrique-là, oui, oui. Qui se voulait blanche.
Oui, il faut se rappeler que la division Afrique noire, Afrique blanche, comme on a dit à un moment donné, ça n'a pas de sens. Colorer l'Afrique de cette manière-là, et colorer surtout dans le sens de la division, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut se rappeler que les populations noires qui se trouvent en Afrique du Nord ne sont pas toutes d'origine servile, que des populations noires se sont installées ici qui étaient des populations tout à fait libres. Il faut se rappeler que les déplacements de populations sont allés également dans l'autre sens.
On va y revenir, hein, oui. Sur cette histoire qui continue autour de la question pourquoi Fès est aussi africaine, et heureusement d'ailleurs. Nous continuons de nous interroger depuis le musée Bata à Fès, au festival des musiques sacrées et de ses rencontres dans l'esprit de Fès, au miroir de l'Afrique, cette année, suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info. A tout de suite.
Autour de la question,
d'où ça vient ?
Caroline Lachowski.
Bienvenue bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie ici à Fès, au Maroc, à l'ombre des jacarandas, du jardin, du musée Bata, où ont lieu tous les matins de sacrées rencontres en public. Vous les entendez peut-être en fond dans l'esprit de Fès, de ce festival des musiques sacrées. Nous sommes en compagnie du philosophe Souleymane Bachir Diagne, de l'historienne Jocelyne Daclia et de l'ethnologue Romain Simnel autour de la question « Pourquoi Fès est aussi africaine ?»
Votre Altesse Royale, Excellence, Mesdames et Messieurs, chers amis festivaliers, bienvenue à la 21e édition du Festival des musiques sacrées du monde de Fès. Cette 21e édition célèbre les relations si riches et variées que la capitale spirituelle du royaume entretient depuis toujours avec son sud. Fès au miroir de l'Afrique. Fès, il est anti-africain.
Les tambours de l'immense Doudoundia et Rose et de tous ses enfants et petits-enfants ont résonné tard dans la nuit pour la soirée d'ouverture à Bab el Makina. Écoutez ce que nous a dit Doudoundia et Rose à sa sortie de scène.
Le fait que je sois là, à Fès, là où se trouve notre marabout, cher Ahmed Tidiane, qui m'a fait beaucoup plaisir, parce que moi je suis Tidiane, en vrai ça m'a fort touché, et puis j'ai rencontré beaucoup de gens ici, qui sont venus du Sénégal, d'un peu parti.
Voilà. Il y a un vrai lien entre le Maroc et le Sénégal.
Ah oui, en tout cas, le rapport qu'il y a entre le Sénégal et le Maroc, ça date de très longtemps. Moi, je peux dire que nous sommes des frères et sœurs.
Frères et sœurs, entre le Sénégal et le Maroc, vous l'avez dit, Souleymane Bachir Diagne, c'est une longue histoire spirituelle et toujours aussi vivante, parce qu'on parle des échanges sur le continent africain, le pèlerinage hein, sur le mausolée de Cheikh Si Ahmed Tidjani des Sénégalais, c'est vraiment une réalité ici à Fès.
C'est une réalité. Un ami, Ali Ben Makhlouf, d'ailleurs, qui organise ce forum, hein. Me disait en souriant que le Wolof était devenu la troisième langue la plus parlée dans la Médina de Fès. C'est vrai que parfois quand je pense à la Médina, quand je suis allé me recueillir sur le tombeau du Sidi Ahmed Tidjani, j'ai rencontré beaucoup de Marocains qui me parlaient en Wolof parce qu'ils s'attendaient à ce que je sois Sénégalais. Ils voient tellement de Sénégalais que...
T'as lieu de pèlerinage de cet islam soufi.
Oui, vous savez que dans l'islam soufi faire une visite pieuse, pèlerinage serait un mot que je n'utiliserai pas, je le réserve pour la Mecque, mais faire une visite pieuse sur les tombeaux des saints qui sont considérés comme des espaces de recueillement, des espaces sacrés, c'est une chose qui se fait beaucoup. Et donc, oui, il y a des voyages organisés depuis le Sénégal et d'autres localités en Afrique subsaharienne pour venir en visite pieuse à Fès.
Alors cet islam soufi aujourd'hui où l'on parle tant d'intégrisme religieux, on va pas dire, il y a pas, vous l'avez dit hein, dans votre conférence commune ici même dans le palais Bata, il n'y a pas de bon et de mauvais islam, mais ça pourrait être, on a l'impression quand même que cette tradition mystique soufi pourrait être une sorte de rempart contre l'extrémisme et l'intégrisme religieux.
Oui, parce que par définition, si vous voulez, dans sa doctrine même, on va dire dans sa philosophie, le soufisme est profondément pluraliste. Le soufisme consiste à mettre l'accent davantage sur le désir commun de Dieu qui soulève en quelque sorte toute la création vers le divin, plutôt que sur les formes que ce désir peut prendre. Donc l'idée qu'il y a une équivalence des formes est inscrite profondément dans la doctrine soufie. Maintenant, évidemment, dans la sociologie, dans l'histoire, vous avez des confréries qui se sont comportées d'une manière qui ne correspondait pas toujours à cette doctrine-là, mais à la base, dans la philosophie même du soufisme, il y a cette idée profondément pluraliste selon laquelle le désir du divin et la chose du monde la mieux partagée par toute la création, et que ce désir prend des formes qui, lorsqu'on regarde précisément ce qui est cette force commune, apparaît comme unique, unitaire, même malgré la diversité des formes traditionnelles que ce désir peut prendre et dans lesquelles
l'unité dans la diversité, c'est un peu cet esprit de Fès qui veut être mis en avant aussi aujourd'hui dans ces rencontres, dans ce festival. Absolument. C'est un peu ça qui émerge et qui, est-ce qu'on peut le favoriser aujourd'hui, Jocelyne Daclia?
favoriser le pluralisme, mais dans la communication et pas dans le cloisonnement, parce qu'il y a aussi cette idée de société mosaïque. Moi, ce qui m'importe, c'est aussi un principe de fluidité,
qu'il y ait des échanges, que ça parle, que ça communique,
que ça circule, et puis qu'on laisse place aussi au changement, y compris au changement religieux, y compris à la mutation.
Parce que ces questions qui touchent évidemment tout le monde aujourd'hui, cette question de l'intégrisme de l'islam, elle est évidemment très importante ici au Maroc, ici à Fès. C'est prégnant et ça fait partie. On sent bien que c'est sous-jacent derrière tous les discours et toutes les questions. Ce sont des vraies questions.
Oui, c'est une question qui travaille le monde entier aujourd'hui, sans dire de banalité, mais je dirais qui est aussi présente et prégnante au Maghreb qu'elle peut l'être en Europe. Il y a cette même crainte de l'intégrisme. Et là, il me semble que la question de la fermeture des frontières est une question essentielle. Là, nous revenons à la question de la circulation des migrants et à la fluidité des passages.
Dès lors, c'est-à-dire qu'en fait, on a peur et on ferme les frontières.
On ferme les frontières, mais en fermant les frontières, on favorise aussi des passages en force et on favorise aussi des formes de radicalisation.
Et au fond, les questions sont les mêmes partout, autour de la question pourquoi Fès l'africaine, Fès est africaine, Fès est andalouse, et on est dans ce nœud-là qui pose toutes ces questions-là. Comment ne pas fermer les frontières? Comment refaire une circulation, on l'a dit en première partie, qui existe, Romain Simonel?
Oui, c'est compliqué parce que quand on voit les dernières législations, les dernières manières de gouverner, de gérer ces espaces transfrontaliers, enfin, je pense notamment à la création de la réserve de biosphère transcontinentale entre le Maroc et l'Espagne. Exactement ces zones où on a des forêts où se cachent aujourd'hui les migrants.
C'est-à-dire que ce sont des zones qui, pour préserver la biodiversité, oui, on va préserver la biodiversité, mais pas les hommes.
Mais pas les hommes, c'est-à-dire qu'en gros, les hommes sont exclus de cette biodiversité considérée comme endémique. C'est pour ça qu'on lui donne une valeur et c'est pour ça qu'on...
Elle a toujours été là.
Elle a soi-disant toujours été là.
Soi-disant,
voilà. Et donc on exclut, et donc c'est vrai que ça pose un problème, un gros paradoxe entre les droits de l'homme et les droits de la nature. Enfin, moi j'ai tendance à les appeler les sans-papiers de la biodiversité, parce que finalement, ils ne peuvent pas faire partie donc de cette diversité du vivant transcontinental, ce qui est quand même totalement paradoxal vu la situation.
Et on parlait donc de ces chemins qui ont toujours existé à travers le Sahara. Aujourd'hui, quoi, on pourrait dire que ces chemins, il faut les réinventer, il faut les rouvrir, il faut rappeler à quel point ils ont existé et à quel point ils sont indispensables.
Oui, tout à fait. Moi, je crois à une forme de thérapie par l'histoire, en quelque sorte. Il ne s'agit pas de réhabiliter l'idée que le monde pourrait être fait de pure concorde, de pure harmonie. L'histoire est faite de conflits, l'histoire est faite d'affrontements et de clivages. Mais il me semble que si déjà par l'histoire, nous avions conscience d'être déjà dans une histoire commune. Je ne veux pas recourir strictement à la notion de métissage, parce que le métissage est déjà une dissociation originaire, en quelque sorte. Mais si, par exemple, l'Europe prenait conscience que les sociétés actuelles se sont constituées au fil du temps aussi par des apports subsahariens qui passaient par la Sicile, par l'Espagne, ou par des ventes d'esclaves subsahariens,
de toutes les manières possibles,
mais aussi maghrébins, mais aussi turc, toute cette histoire a constitué aussi les sociétés européennes sous leur forme actuelle. Et dès lors qu'on a cette pensée en tête, qu'on peut venir de cet univers finalement, je crois que ça invite à revisiter complètement cette idée d'une sorte de pureté nationale.
Oui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pureté. Il y a beaucoup d'impuretés d'ailleurs même dans notre histoire, mais ce sont toutes ces impuretés là qu'il faut.
Cette démarche-là
doit être, prendre conscience.
Tout à fait. Et cette démarche-là doit être faite aussi au sud de la Méditerranée, prendre conscience de ces apports historiques qui font que nous sommes en osmose d'emblée les uns avec les autres.
De Fès, on redescend au sud, jusqu'à Timbuktu. Timbuktu, le film d'Abderrahmane Sissoko, sera projeté ici à Fès, au cinéma Bougeloud. Ce sera mercredi, dans le cadre du festival. On écoute un extrait de la bande originale, interprété par Fatoumata Diawara. La jeune et belle griotte sera elle aussi en concert, pour un mix qui devrait vous plaire, avec le cubain Roberto Fonseca. Ce sera mardi, ici même, dans les jardins du Palais Bata. Allez, pour l'heure, on écoute Fatoumata Diawara et Amine Bouafa, Timbuktu, Faso.
Yene faso e mbale mwalu tombaktu yene faso e mbo yene faso e sinilu tombaktu yene faso e mbo de minzenu de kase lala badinya badinya duwe tombaktu e Sindia, Sindia, tu e malibaye, yankalu, yane, faso.
Sur RFI, extrait de la bande originale du film Timbuktu d'Abderrahmane Sissoko, projeté mercredi au cinéma Bougeloud de Fès, au Maroc, où nous sommes dans le cadre du festival des musiques sacrées au miroir de l'Afrique cette année, en compagnie du philosophe Souleymane Bachir Diagne, de l'historienne Jocelyne Daclia et de l'ethnologue Romain Simnel, autour de la question pourquoi Fès l'africaine. C'est un destin commun, Romain Simnel, qu'affronte aujourd'hui l'Afrique, de part et d'autre du Sahara.
Oui. Et surtout, c'est un destin commun qui s'inscrit à la fois dans l'histoire et qui résonne aujourd'hui de manière très contemporaine. Donc on l'a vu avec les manuscrits, on voit qu'il y a une histoire, un échange de savoir depuis Tombouctou jusqu'à Fès. Et puis aujourd'hui, on voit aussi, curieusement, que pour d'autres raisons, peut-être plus économiques, le Maroc s'africanise, le Maroc cherche à se tourner de plus en plus vers l'Afrique et non plus vers l'Europe. On a vu les problèmes dernièrement, y compris diplomatique, qu'il y a eu entre le Maroc et la France, et on a vu comment le Maroc a joué justement sur ses partenaires africains pour pouvoir se repositionner dans le monde. Et on voit économiquement que le Maroc embauche de plus en plus de jeunes issus du Sénégal, du Mali. On voit ça dans les avions de Royal Air Maroc, on voit ça un peu partout, on voit ça dans les universités marocaines. Et donc voilà, donc il y a cette volonté du Maroc de maintenant de se tourner, de devenir un partenaire essentiel de ses voisins africains.
Alors, se tourner vers le sud, le Maroc s'africanise pour des raisons économiques évidemment, mais quand on sait l'histoire, et quand on pense à demain, on se dit que c'est cette piste-là et ce fil-là qu'il faut tirer sous les mains.
Absolument, c'est très important, parce que c'est vrai qu'il y a l'histoire. Vous nous avez fait écouter ce magnifique air sur Tombouctou. Prenons la ville de Tombouctou. Moi, je me souviens dans mon enfance avoir appris que les péripéties de René Caillé découvrant Tombouctou, ce qui n'a aucun sens. Tombouctou n'avait pas besoin d'être découvert par René Caillé. Il était découvert, il faisait partie, c'était un point d'arrivée, un point de départ de caravane. Ça veut dire que dans l'histoire proprement intra-africaine, Tombouctou avait une place importante entre le nord et le sud, entre le Maroc et le Soudan, qui était l'Empire Sonrai à ce moment-là. Et c'est cette histoire-là, qui est une histoire sud-sud, l'histoire des interconnexions entre le sud et le sud qui ne passe pas toujours par la médiation d'un centre européen, ce n'est plus l'Europe qui raconte une histoire à laquelle les autres se raccorderaient. Les autres ont également des histoires qui s'interpénètrent, qui s'interconnectent, et il est heureux que sur cette histoire-là, un avenir soit également en train de se construire. La coïncidence...
Parce que cette histoire-là a été négligée, oubliée très longtemps, quand même, mise de côté en tout cas.
Mais le Maroc a cette particularité d'avoir toujours gardé à l'esprit son ancrage sud. Parce que c'est un empire. Et un empire, ça a de la mémoire. Et donc, il y a cette mémoire de son côté sud qui avait été très fortement soulignée par le roi Hassan II déjà. Et le roi du Maroc, qui se trouve par une coïncidence heureuse et extraordinaire en ce moment même en tournée dans l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, a également la volonté, semble-t-il, de bâtir, c'est ce que disait tout à l'heure Romain, de bâtir sur cette histoire commune un avenir. À un moment où on parle de l'émergence de l'Afrique, cette émergence doit passer par une coopération et un partenariat entre les pays africains eux-mêmes et ne pas être simplement un partenariat entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et la Chine, l'Afrique et les États-Unis.
L'Afrique et l'Afrique, hein, Jocelyne Darléa.
Oui, tout à fait. Il y a cette dimension de coopération sud-sud qui est plus que jamais à l'ordre du jour, qui avait été un peu oubliée depuis le lendemain des indépendances, qui avait été une volonté politique importante, mais qui, d'une certaine façon, avait fait long feu et qu'on est en train de redécouvrir
pourquoi
aujourd'hui.
Ça avait été oublié à ce moment, enfin, pourquoi ça a été oublié si longtemps et pourquoi au moment des indépendances, ça a continué, si j'ose dire, d'être oublié et pourquoi ça revient aujourd'hui, justement?
Alors, il y a eu l'impression, disons, que l'avenir était du côté des relations avec l'Europe. Et on revient actuellement à des circulations beaucoup plus équilibrées de manière générale. Il y a un élément important dont nous n'avons pas encore parlé, c'est la question de la mazirité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec donc la réhabilitation pleine et entière et la légitimation officielle de l'identité amazigh, du Maroc, mais aussi du nord de l'Afrique, on revient à une forme d'africanité revendiquée.
Africanité revendiquée par les Amazigh.
Revendiquée par les Amazigh. Et ce qui était autrefois une volonté politique des chefs d'État de faire l'Afrique et de mettre à bas, disons, une séparation coloniale entre le nord de l'Afrique et l'Afrique dite noire improprement, ce qui était une volonté politique par le haut est en train de devenir maintenant une revendication culturelle beaucoup plus répandue.
Une réalité.
Une réalité, oui, beaucoup mieux assumée sur un plan culturel. Et par ailleurs, on voit aussi, puisqu'il a été question de racisme, on voit la société civile se mobiliser aussi contre le racisme. C'est-à-dire qu'on voit aussi des formes de solidarité qui se mettent en place, en même temps qu'une volonté politique d'intégration. Alors évidemment, disputer parfois des formes de régularisation donc des migrants subsahariens. Et de leur part aussi une volonté de trouver leur place dans la société et de lutter contre l'exploitation éventuellement dans le travail ou une forme de fierté citoyenne finalement.
Fierté citoyenne en Afrique, sud-sud, il y a vraiment des pistes à chercher partout et dans toutes les directions. Et aussi sur tous les rythmes, puisque nous sommes au Festival des Musiques Sacrées, et jusqu'au Rhythm and Blues avec des maîtres du genre. Je propose d'écouter les mythiques Temptations, qui ont fait les six belles heures du label Motown. Et oui, ils seront là, ils seront au Festival des Musiques Sacrées de Fès, incroyable, au miroir de l'Afrique. Ce sera jeudi soir prochain. Et tout de suite sur RFI, vous êtes prêts? Get ready, The Temptations sur RFI. Sandy, The Temptations sur RFI au Festival des Musiques Sacrées au Miroir de l'Afrique cette année. Et oui, nous sommes prêts, nous nous interrogeons avec nos invités, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l'historienne Jocelyne Daclia et l'ethnologue Romain Simnel sur les influences africaines dans ce magnifique jardin du Palais Bata à Fès. Influence, on l'a dit, spirituelle, influence économique aussi. Est-ce que si on rêve un peu sur ce continent africain, est-ce que les pistes ne pourraient pas venir de tous les côtés et nous emmener ailleurs autrement, Romain Simnel?
Oui, parce que finalement, il n'y a pas du tout d'antagonisme entre spiritualité et économie. Je crois que la manière de vivre la spiritualité au Maroc et au Mauritanie, au Sénégal, au Mali, est fortement ancrée sur des échanges aussi monétaires, des dons d'argent. On parle souvent de commerce de la baraka.
Commerce de la baraka,
oui,
qui existe.
Oui,
oui,
tout à fait. Et donc, on peut imaginer, par exemple en Mauritanie, la plupart donc, des milliardaires sont de grands soufis. On peut imaginer que pourraient émerger des formes d'échanges économiques basées aussi sur la spiritualité, qui échapperait là pour le coup complètement au FMI, et qui pourrait voilà générer de nouvelles formes de peut-être de capitalisme qui serait issu de ces croisements, de ces échanges spirituels et économiques entre tous ces pays africains.
Est-ce que c'est des pistes, Jocelyne Daclia? Est-ce que c'est du rêve? Est-ce que c'est comment faire autrement finalement sur ce continent? Comment chercher des pistes au sud et sud-sud, hein, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même ça hein, qu'on cherche tous.
Ah, les pistes, j'allais dire, elles se dessinent d'elles-mêmes. Elles se dessinent toutes seules. Moi, ce qui me paraît important, c'est que l'image de l'Afrique est en train de changer complètement. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans cette image un petit peu misérabiliste d'un continent assisté qui attend qu'on injecte finalement de l'aide. C'est une image beaucoup plus dynamique qui se fait jour aujourd'hui et on prend conscience partout dans le monde d'un dynamisme économique de l'Afrique, d'un potentiel économique en pleine expansion. On prend conscience également d'une créativité africaine, bon, qu'on voit bien dans le domaine de la mode, etc., dans des choses qui peuvent nous paraître économiquement un peu accessoires, mais qui sont tout à fait importantes, qui génèrent beaucoup d'activités. Mais on le voit bien aussi dans le domaine de l'art contemporain, par exemple, qui a créé beaucoup de rapprochements entre un pays comme le Maroc, qui est très dynamique sur ce plan, et puis d'autres pays africains qui produisent également des artistes, des grands artistes reconnus sur la scène internationale. Donc moi, il me semble que ça joue déjà au niveau des images, au niveau de l'idée d'un potentiel de ressources et d'une envie d'y aller voir et d'investir.
C'est en germe, Souleymane Bachir Diagne. Il y a beaucoup de choses en germe ici. On le sent en germe à Fès, on le sent en germe en lien avec, sur le continent africain, ça frémit.
Absolument, ça frémit. Les germes de changement sont là, ils sont déjà devenus plus que des germes. Donc il y a toutes les raisons de penser qu'en effet, si on parle dans les vieux termes de décollage, le décollage est réel. Même si malheureusement les taux de croissance par lesquels on mesure ce décollage ne viennent pas encore chercher les pauvres, ne fabriquent pas, ne créent pas encore beaucoup d'emplois. Ça veut dire que les drames auxquels nous assistons, les drames liés à la migration et à tous ces migrants qui sont à la fois victimes de ces négriers modernes que sont les passeurs et victimes du mauvais sort qui fait qu'ils se noient dans la Méditerranée, ces drames-là malheureusement sont là, présents, pour nous rappeler que les taux de croissance que l'on évoque aujourd'hui ne sont pas encore venus chercher les pauvres là où ils sont. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai, que ce frémissement est réel. Jocelyne a raison de parler d'une créativité extraordinaire dans différents domaines et qui sont également liés, ces domaines-là, à la spiritualité. Mon ami et collègue, l'historien Momodou Diouf, dirige une réflexion multiforme sur cette créativité nouvelle et ses liens avec les courants spirituels, la manière dont des courants économiques, monétaires viennent se greffer sur des courants spirituels qui sont réels. Tout cela est à
là aussi il y a germe de quelque
là
chose
aussi,
d'autre.
Exactement, c'est-à-dire que ce que l'on appelait d'un terme qui était un terme un petit peu résiduel, l'économie informelle, il y avait l'économie formelle et puis tout le reste on appelait ça économie informelle, et bien cette économie informelle est également en train aujourd'hui de venir au grand jour et de montrer toute la créativité, la capacité d'innovation dont elle est porteuse.
C'est tout le meilleur que l'on se souhaite ici à Fès, dans l'esprit de Fès, de ces rencontres au miroir de l'Afrique dans le cadre du festival qui, je rappelle, ont lieu tous les matins jusqu'à mercredi inclus, donc dans les jardins du Palais Bata. Merci à tous les trois infiniment de nous avoir fait partager, on aurait envie d'en avoir plus, hein, toutes ces pistes d'interrogation et de réflexion. Pour prolonger la réflexion, on peut lire, Souleymane Dachiridia, je vais citer un de vos ouvrages, Comment philosopher en islam, paru aux éditions Philippe Ray, Jim San, Jocelyne Daclia, Les musulmans dans l'histoire de l'Europe chez Albin Michel, deux tomes, et Romain Simnel, Ne mange pas ce livre, Les enjeux des manuscrits du Sahara, aux éditions marocaines, La croisée des chemins. Merci à vous trois, bon séjour à Fès.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, suite de nos interrogations dans l'esprit de Fès, toujours dans les jardins du Palais Bata, autour de la question comment faire fructifier les échanges sur le continent africain, nous serons notamment en compagnie du musicien Tikenja Fakoli, présent dans ce festival des musiques du monde. Mille merci à Guillaume Ploquin, à la réalisation nomade et très inspirée. Merci aussi à toute l'équipe technique du festival, Sophia Lemtai, Amidan Bassi et Mimoun. Rendez-vous demain, toujours dans l'esprit de Fès. D'ici là, portez-vous bien. Amis auditeurs, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.